Bonjour Florence Albouy.
Oui, bonjour Sandrine, bonjour aux auditeurs. Voilà, je me présente, Florence Albouy, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. J'exerce en libéral à Vannes, en Bretagne, et j'appartiens, comme beaucoup de psychologues qui interviennent sur votre antenne le lundi matin, à l'association AP21, qui rassemble des psychologues qui partagent la foi catholique et qui réfléchissent au rapport psychologie et foi, dans le souci que notre pratique professionnelle soit bien compatible aux exigences de notre foi catholique. Voilà. Alors aujourd'hui, le thème « Réflexion sur le psychologique et le spirituel », c'est un sujet qui est bien sûr au cœur de nos réflexions associatives. Et c'est pour moi à la fois un honneur de parler sur ce thème et aussi un exercice périlleux. Voilà, et c'est également la dernière émission avant Noël, alors je me dois de vous donner une tonalité lumineuse sur l'obscurité de la question que je vais aborder. Voilà, effectivement elle est obscure car elle est confuse. On n'en parle pas beaucoup dans les médias catholiques, alors que la question du bien-être psychologique est vraiment omniprésente dans les médias grand public. Voilà, en tout cas, cette thématique renvoie à Noël. C'est Dieu qui fait alliance avec l'humanité, c'est le spirituel qui épouse notre chair humaine. Voilà, alors je souhaite aujourd'hui quand même reprendre le titre de mon exposé, parce que c'est un titre quand même très très vaste. Et dans la logique de l'émission précédente, qui était intitulée « Comment on s'engage en thérapie ?», j'ai choisi d'aborder comment on choisit de s'engager en accompagnement spirituel ou alors en accompagnement psychologique. Certains auditeurs se demandent peut-être qui solliciter lorsqu'ils rencontrent des difficultés personnelles. Est-ce qu'ils doivent chercher un accompagnement spirituel chrétien ? Donc c'est important de préciser chrétien car le spirituel n'est pas l'exclusivité du christianisme. Ou bien consulter un psychothérapeute comme beaucoup le font aujourd'hui. Voilà. Est-ce que consulter par exemple un psy ne risque pas de me faire perdre la foi, de me faire divorcer? Est-ce que l'accompagnement spirituel va me permettre d'aborder toutes les dimensions de ma vie, notamment les dimensions intimes? Est-ce que je prends comme il faut ma relation à Dieu? Et si je prends comme il faut ma relation à Dieu, alors pourquoi rien ne s'améliore? Ma vie de foi ne sert pas à me détendre et à trouver la paix, j'ai encore beaucoup d'angoisse malgré mon lien à Dieu. Alors, est-ce que cela sert de croire si cela a si peu d'effet? Suis-je fidèle à Dieu et à l'Église si je vais solliciter l'aide d'un psychothérapeute? Voilà, beaucoup de questions. Et quel est aussi, parmi les deux accompagnements, celui qui me permettra de vivre plus heureux et plus en cohérence et avec moi-même et avec Dieu? Alors, toutes ces questions m'ont conduite à envisager ce matin donc cet exposé. Et je vais commencer par vous donner quelques définitions alors de l'accompagnement spirituel, de la thérapie, enfin de la psychothérapie, de la guérison et du salut. Je ne m'aventurerai pas à donner une définition sur l'âme, qui est une définition complexe, et sur la psyché. J'aborderai ensuite ce qui distingue le travail psychothérapeutique de l'accompagnement spirituel, car les deux ne sont pas équivalents et ne visent absolument pas les mêmes résultats. Nous regarderons ensuite comment ces deux accompagnements peuvent avantageusement se compléter, s'articuler entre eux, parce qu'il existe des intersections, des passerelles. Et ensuite, à la fin, je regarderai les écueils dans le mode d'emploi des formules et la nécessité d'un dialogue entre ces deux approches. Voilà. Alors, quelques précisions pour finir cette introduction. Ce que je vais dire aujourd'hui dans cette émission est vraiment le fruit d'une réflexion personnelle, mais qui, évidemment, est alimentée du travail des professionnels du monde de la psychologie et puis également des enseignements d'Église que j'ai reçus. Voilà. Lorsque je parlerai aussi du spirituel, je parlerai de la vie spirituelle chrétienne et, évidemment, pas d'une autre approche religieuse ou areligieuse. Alors, premier aspect des choses, donc les définitions préliminaires. Dans l'Écriture, Jérémie dit que notre cœur est compliqué et malade. Alors, compliqué, c'est sûr. Malade, ben, ça arrive souvent. Alors, il s'agit donc de le simplifier. Alors, ça, c'est l'aspect spirituel. Et de le soigner, ça, c'est l'aspect psychologique. Alors, la première définition, c'est l'accompagnement psychologique. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'accompagnement psychologique, il a comme objet de remédier à un fonctionnement psychologique douloureux, parce que défectueux, et aussi, évidemment, à la suppression des symptômes qui l'accompagnent et qui peuvent beaucoup gêner la personne. Quand on dit thérapie psychologique, il se peut que l'on pense à la psychanalyse et au divan. Alors, aujourd'hui, il faut avoir en tête que cela recouvre maintenant une foison de propositions aux intentions très différentes, aux méthodes variées, aux contenus aussi variés. Et il y a aussi des thérapies qui peuvent être brèves ou longues, donc le temps est variable. Alors il y en a donc pour tous les goûts et pour tous les budgets. Et je renvoie les auditeurs à l'émission précédente où mon confrère Patrice Aimé a très bien décrit cela. En tout cas, pour comparer ce qui est comparable et simplifier la réflexion aujourd'hui, je n'évoquerai que la thérapie psychologique individuelle au long cours qui vise un changement durable de son rapport au monde, telles que les thérapies d'inspiration psychanalytique, mais pas que, hein. Enfin, en tout cas, ce type-là. Deuxième définition, l'accompagnement spirituel. Alors, l'accompagnement spirituel, il a comme objet d'orienter ou de réorienter sa vie vers le Seigneur et de passer au tamis sa manière de vivre et d'aimer afin qu'elle soit conforme à l'Évangile, conforme à ce que Jésus propose comme chemin de bonheur. Alors là aussi, il y a des écoles spirituelles différentes, des maîtres spirituels qui mettent l'accent sur des aspects différents de la relation au Christ et des vertus évangéliques à cultiver. Les franciscains, je suppose, n'accompagnent pas de la même manière que les jésuites, les dominicains, pas comme les carmes, etc. Donc les chemins proposés sont aussi très variés. C'est une richesse qui est vraiment intéressante. Et il y a des propositions aujourd'hui de sessions de guérison psychospirituelle, l'agapéthérapie en particulier, dont on a beaucoup entendu parler, pour le coup, dans les médias chrétiens, mais qui a été profondément remaniée depuis 2015. Et puis, des formations telles que les formations d'Henri Lemay, qui est, je crois, un Canadien, et qui propose des formations pour l'accompagnement. Je dirais un mot de ces deux propositions, de ce type de propositions un petit peu plus bas. Je voudrais dire également un mot sur le coaching, parce que le coaching peut à la fois, c'est une méthode d'accompagnement qui peut servir à la fois dans le domaine psychologique et professionnel aussi, et spirituel. C'est une technique d'accompagnement qui travaille sur le conscient et qui vise l'atteinte d'objectifs très concrets et mesurables. Donc le coaching est un accompagnement dans la sphère souvent professionnelle, proposé prioritairement généralement aux dirigeants, ou alors dans le domaine sportif, ou encore dans le domaine pastoral. Hein, là, c'est dans le domaine d'église, dans un domaine d'église, ecclésial. Alors il peut évidemment, donc, comme je l'ai dit, concerner les deux domaines, psy et spi. Une autre définition, c'est donc la guérison en opposition à salut, en parallèle à salut. C'est un terme qui est en fait un terme piégé. On peut faire croire à un état définitivement acquis. Alors, on va aborder quelques définitions de la guérison. Alors, est-ce que c'est le retour à un état antérieur à la maladie? Alors, c'est le sens médical, hein, la restitutio ad integrum. Est-ce que c'est la suppression des symptômes, la disparition d'un mal physique, psychologique ou spirituel, hein, spirituel donc toutes les formes d'emprise du démon notamment, ou est-ce que c'est la modification de sa relation à son monde intérieur et à son monde extérieur qui du coup entraîne la délivrance de symptômes? Alors moi je pense, ce sera la seule vignette clinique que je vais vous livrer, je pense à une jeune femme d'une trentaine d'années que j'ai reçue en consultation récemment qui était atteinte de boulimie depuis 25 ans. Elle avait aux alentours de 35-38 ans. Elle n'avait jamais parlé de ce problème à quiconque, y compris à son mari ou à ses parents. Alors nous avons travaillé sur son histoire, sur sa manière de fonctionner avec ses proches, dans son travail, sur la gestion de ses émotions au quotidien. Et puis, peu à peu, les séances lui ont permis d'être délivrée de l'enfer de sa boulimie, vraiment sans parler d'ailleurs de la nourriture, enfin sans parler de... je dirais, de ses symptômes, parce qu'elle a découvert qu'elle n'était plus seule d'ailleurs face à son problème, qu'elle était donc portée avec, je dirais aussi qu'elle portait ça avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire moi, comment sa manière de vivre qui était vorace et qui était basée sur la pression sur les autres, sur un fonctionnement à la dernière minute, comment ce fonctionnement-là parlait de sa souffrance d'avoir été bridée très fortement pendant son enfance, dans son éducation. Et elle a découvert que c'était la seule manière qu'elle avait trouvée depuis son adolescence pour dire non à son entourage, à ses parents en particulier, et pour pouvoir s'émanciper. Alors elle est restée là-dedans. Et la prise de conscience de ce type de fonctionnement et de la raison pour laquelle elle était comme ça a permis un effet domino magistral qui a entraîné un remaniement de tout le reste de sa vie en quelques mois. Et évidemment, la disparition de sa boulimie. Voilà. Alors, on peut donc, en conclusion, considérer idéalement la guérison comme l'atteinte d'un état de bonne santé physique, psychique, sociale et spirituelle, unifiant l'ensemble de la personne de manière cohérente et harmonieuse. Voilà, la guérison, donc, c'est un terme utilisable tant dans les sphères religieuses que psychologiques. Mais pour la sphère religieuse et spirituelle chrétienne, le terme utilisé est le salut, c'est-à-dire la restauration de toute la personne dans toutes ses dimensions, ce que nous n'aurons pleinement en fait qu'au ciel. Et je dirais, j'ajoute, si on y arrive. Enfin, j'espère que tout le monde y arrivera. Alors justement, Apocalypse 21, c'est dit, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Alors, Apocalypse 21, c'est ce qui a, je dirais, donné l'appellation, enfin le sigle de notre association, AP21. Voici pour l'anecdote. Une dernière définition, c'est le salut. Alors, j'ai regardé les définitions de la Conférence des évêques de France, qui était très intéressante, mais que je trouvais un petit peu abstraite. J'ai balayé plusieurs définitions, et alors je vais résumer toutes les définitions que j'ai trouvées, définitions évidemment notamment catholiques. Alors, le salut, c'est être guéri radicalement d'un mal ontologique qui touche tout être humain et qui est la coupure d'avec le Dieu d'amour qui nous a créés. Le salut consiste à reconnaître que seul Jésus est celui qui a rétabli sur la croix cette alliance avec Dieu le Père, alliance perdue avec la chute, et que les hommes n'étaient plus dans la capacité de rétablir par eux-mêmes. En tout cas, n'ont jamais été d'ailleurs dans la capacité de rétablir par eux-mêmes. Reconnaître cela et emboîter le pas de Jésus, voilà ce qui sauve. Et ceci est l'affaire de toute une vie. Ce salut, donc, on le voit bien, ne peut être que reçu. Il est gratuit et les êtres humains ne peuvent pas se le fabriquer eux-mêmes et gagner leur ciel par leurs propres moyens. Alors, c'est là la pierre de touche. C'est une pierre d'achoppement qui a pu rendre très compliqué le dialogue entre la foi et la psychologie. La psychologie a pu être présentée comme un salut humain dispensant de recourir à Dieu. Ceci parce que l'on a jugé des choses en mettant sur le même plan le salut et la guérison. Alors j'en arrive justement à considérer ce qui distingue l'accompagnement psychologique de l'accompagnement spirituel. Alors je vais lire un tableau que j'ai établi pour les besoins de l'émission. Je vais prendre différents critères et je vais les passer, je dirais, au crible de l'accompagnement de la thérapie psychologique et de l'accompagnement spirituel. Donc d'abord on est sur des registres à deux dimensions. Il y a pour l'accompagnement psychologique, on est sur un registre naturel, humain, horizontal, tandis que pour l'accompagnement spirituel, on est sur un registre surnaturel, quelque part, qui assume le naturel, mais on est sur un domaine surnaturel, je dirais quelque part surhumain, c'est la grâce, et dans une dimension verticale, la relation à Dieu. La finalité est différente pour l'un comme pour l'autre. Pour la thérapie, elle vise la guérison psychologique, c'est-à-dire la restauration de son libre arbitre, c'est-à-dire la faculté qu'a l'être humain de se déterminer librement et par lui seul, à agir et à penser par opposition au déterminisme et au fatalisme. Hein, voilà, c'est une faculté qui est libérée dans le travail psychologique, s'il est bien fait. Donc la finalité, c'est donc la guérison, c'est de trouver aussi son identité subjective, sa personnalité, une manière de fonctionner sans entrave. Voilà. Donc souvent, la suppression d'un symptôme qui fait souffrir, c'est aussi un meilleur fonctionnement psychologique, plus souple, libéré donc de tous ces symptômes, et puis qui permet d'avoir de meilleures relations avec les autres, et une plus grande confiance en soi, et une meilleure estime de soi. Voilà. L'accompagnement spirituel, lui, vise la conversion, en fait. La conversion, c'est-à-dire l'union à Dieu et la communion d'amour avec les autres. Alors, la finalité de l'accompagnement spirituel, il vise la sainteté, tout simplement, hein, alors que l'accompagnement psychologique vise la santé. Donc là, l'identité qui est recherchée, c'est la découverte de son identité objective de fils ou de fille de Dieu, tandis que dans l'accompagnement psychologique, c'est l'identité subjective. Et donc, l'accompagnement vise à conformer sa vie à la volonté de Dieu, de vivre le quotidien de ses engagements humains dans une pleine confiance en Dieu, et de remettre sa vie entre ses mains pour que l'Esprit Saint la dirige. Et du coup, Il y a une notion de la liberté intérieure que l'on gagne, car tout est ordonné à une fin, c'est la fin d'être en union avec Dieu, ce qui d'une certaine façon, simplifie l'existence parce qu'elle l'oriente, tout simplement. Les choses sont plus simples. La nature de ces deux accompagnements. Alors, la nature pour la thérapie porte sur la capacité de choisir, puisque la thérapie dégage des souffrances psychiques, familiales. Et la nature de l'accompagnement psychologique vise de choisir le bien en vue d'aimer et de servir. Voilà. D'un côté, capacité de choisir, mais on n'est pas obligé de choisir dans le sens de l'amour, alors que l'accompagnement psychologique est quand même orienté vers le service et l'amour. Hein, et voilà. Donc, pour l'accompagnement spirituel, ça suppose quand même de former son intelligence, d'utiliser sa liberté, de nourrir sa foi et évidemment d'exercer sa volonté. Donc, il y a une dimension d'exercice des facultés et de l'engagement moral. La vision anthropologique dans la thérapie, eh bien, la vision, c'est que l'homme est fait pour la relation. C'est le lien, c'est ce lien-là qui est étudié, analysé pour être restauré, en vue d'être restauré. Alors l'anthropologie dans l'accompagnement spirituel l'homme est présenté comme créé évidemment à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, il est fait pour vivre une communion d'amour avec Dieu et avec les autres. Et le but de l'accompagnement, enfin, c'est évidemment de révéler cette image de Dieu qui doit être la plus ressemblante possible. En tout cas, c'est le travail qui est engagé dans l'accompagnement spirituel. Le type de démarche, c'est une démarche pragmatique, je dirais quasiment dans les deux sens. Alors, par contre, démarche pragmatique, c'est-à-dire qui cherche une efficacité pratique, mais qui relève des sciences humaines et s'attache au comment de l'existence. Elle ne se concentre que sur le soulagement de l'être humain et sur sa santé bio-psychosociale. Mais elle ne prétend pas donner un sens à son existence ni à la totalité des problématiques humaines. Voilà. Elle relève du savoir-vivre et du savoir-faire avec soi et avec les autres. Tandis que l'accompagnement spirituel est une démarche à visée pratique, c'est-à-dire de mise en œuvre de la vie spirituelle, et elle relève de la théologie. Elle traite du pourquoi de l'existence et non pas du comment, et donc elle traite de l'origine et du sens ultime de l'existence. Elle se centre donc sur le point oméga de l'existence qui lui donne sens. Et évidemment, elle relève du savoir-vivre avec Dieu. Alors j'espère que je ne vais pas trop vite et que vous me suivez bien. Voilà. Alors, sur quoi on travaille dans les deux approches? Alors, pour le psychologique, c'est la vie psychique, c'est les affects, les émotions, les pensées, les sensations, et surtout leur dysfonctionnement, donc qui se traduisent par des symptômes, des angoisses, des obsessions, des compulsions, des répétitions. Et puis, sinon, dans l'accompagnement spirituel, on s'attache évidemment à la vie spirituelle, c'est-à-dire l'attitude face à Dieu, l'ouverture à la grâce, la confrontation à la parole, comment résister à la tentation, la pratique des vertus théologales au quotidien, foi, espérance, charité, la vie de prière, la vie de communauté ou paroissiale, la vie morale qui doit s'aligner sur les choix spirituels, donc l'exercice des quatre vertus cardinales et l'identification de ces péchés et des déclinaisons en termes de mauvaises habitudes et de tendances fâcheuses. Alors, sur quels moyens les deux approches s'appuient quels sont les leviers du changement? Les leviers du changement dans la thérapie, c'est l'investigation du fonctionnement intrapsychique et interpsychique. Intrapsychique, c'est les conflits, les angoisses, les mécanismes de défense, les représentations, les affects, voilà, c'est tout ça. L'interpsychique, c'est les relations avec l'environnement, avec les proches. Et puis, c'est regarder la logique d'apparition et de répétition des symptômes. Tout ça, évidemment, pas pour que ça tourne sur soi-même, mais en vue de trouver un autre mode de fonctionnement plus économique, plus léger, qui est plus économique en énergie psychique. Et puis, je dirais, qui permette à la personne de fonctionner avec une grande liberté de fonctionnement. Voilà. Alors, les leviers du changement dans la thérapie, dans l'approche spirituelle, c'est d'amener la personne à vivre de la vie divine reçue au baptême, c'est-à-dire à poser des actes de foi, d'espérance et d'amour, à faire l'expérience que la vie de baptisé mène au bonheur humain, même si cette vie de baptisée comporte une part de souffrance, parfois attachée évidemment à l'évangélisation. C'est aussi apprendre à accompagner la personne à fuir les situations qui éloignent de la vie de communion avec Dieu, et puis de se désencombrer des habitudes de pensée, d'agir qui ne sont pas compatibles avec la vie de foi. Voilà. Et puis évidemment, tout ça, il faut repérer l'action de l'Esprit-Saint qui agit dans la personne au cœur de sa vie. Les moyens, en fait, utilisés, c'est l'écoute du propos conscient et des messages inconscients dans la thérapie. Donc, c'est l'exploration de tout ça et faire des propositions d'interprétation, mais également de regarder quelles sont les ressources psychiques de la personne et de travailler à la mobilisation de son désir de changer les choses. Voilà. Par contre, pour l'accompagnement spirituel, le moyen, c'est une écoute ouverte au niveau conscient, qui repère les obstacles, les difficultés, les luttes, les choix à faire, mais aussi qui vise à faire mémoire des grâces reçues, des dons, des réponses divines. Voilà, de donner de la dimension à toute cette vie de la grâce dans la personne et d'identifier évidemment les dons, les facultés spirituelles qu'elle porte en elle. Le processus, bon, je vais peut-être aller un peu plus vite là maintenant, c'est donc le processus pour la thérapie, c'est la prise de conscience des dysfonctionnements et pour les éradiquer, et le processus pour l'accompagnement spirituel, c'est de laisser le mal remonter, le bien aussi, à la surface, c'est-à-dire de prendre conscience des choses, et tout ça en vue de l'offrir à la miséricorde, et de vivre idéalement dans une attitude d'action de grâce, hein, et de confiance en Dieu. Alors, je voulais peut-être aussi aborder la question de la parole. Alors, à quelle parole on se réfère et on se confronte? Bon, en thérapie, on se confronte à la parole, à sa propre parole, à la parole du sujet, évidemment à celle du thérapeute qui vient en réponse. Et la parole à laquelle on se confronte dans l'accompagnement spirituel, c'est évidemment la parole de Dieu, qui est la référence suprême, à laquelle on juge de la qualité, à partir de laquelle on juge de la qualité de ses choix et de ses actes. Quelle relation est analysée aussi dans les deux situations? Sur le plan de la thérapie, ben, on regarde évidemment la relation à soi, aux autres, à son environnement familial et professionnel. Et puis la relation qui est analysée dans l'accompagnement spirituel, c'est la relation à Dieu, à l'Église, aux frères et sœurs et aux pauvres. Voilà. Le cadre en thérapie est défini au début de la thérapie et demande l'adhésion du patient, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, et la périodicité des séances est donc plutôt hebdomadaire ou bimensuelle, maximum. C'est payant, c'est centré sur la personne et sur une problématique prioritaire. Alors que dans l'accompagnement spirituel, ce sont des entretiens plutôt mensuels, généralement, qui sont gratuits, qui sont centrés sur la relation à Dieu et au prochain et à l'Église. La relation au temps, eh bien, il y a deux notions du temps qui sont éclairées par deux mots grecs, chronos et kairos. Chronos, c'est le temps linéaire, et kairos, c'est le temps juste. Alors, sur le plan psychologique, le travail se fait essentiellement sur le passé et le présent. Il y a une temporalité psychique qui se calque pas forcément sur chronos. Il y a une maturité psychique qui prend du temps, et il y a des après-coups qui sautent parfois des années, avec des émergences soudaines et inattendues. Et parfois, on parle de synchronicité lorsqu'il y a une conjugaison invisible des événements, ce qui rejoint le terme de kairos. Voilà. Donc, les progrès, généralement, ne sont pas forcément mesurables à court terme. Alors, la relation au temps pour l'accompagnement psychologique, eh bien, c'est le travail se fait sur le présent, avec une visée, avec en visée, évidemment, l'avenir céleste, hein, l'au-delà même de la vie. On est aussi sur la notion du kairos, c'est-à-dire le temps de la grâce, le temps juste, celui où le temps de l'homme rencontre le temps de Dieu. Et je dirais, c'est le centre de la croix. Hein, c'est la croix, les dimensions horizontales et verticales qui se rejoignent, et c'est donc le temps de la miséricorde. Donc on cherche une intelligence de notre vie à partir de ce regard de miséricorde qui dépasse évidemment l'horizon temporel et physico-psychique. Voilà. Mais quand même, chronos est présent dans l'accompagnement spirituel, en ce sens qu'on parle d'étapes dans la vie spirituelle. Voilà. Donc voilà, dans En termes temporels, on travaille sur du moyen et long terme dans l'accompagnement psychologique et du très long terme, donc une visée d'éternité pour l'accompagnement spirituel. Voilà, je vais essayer de raccourcir mon propos parce que ça peut être un petit peu ennuyeux à force. Mais bon, en tout cas, je dirais, il y a aussi le vocabulaire qui se distingue, qui est distinct entre les deux approches. Sur le plan psychologique, on parlera de troubles, de traumas, de symptômes, d'addiction, de vie psychique, de vie fantasmatique, d'élimination et de restauration. On regarde les choses sous l'angle de la pathologie et du non-jugement moral des actes. Tandis que sur le plan spirituel, on parlera de blessures, de purification, de péché, d'idole, de repentir, de réparation et de pardon. Et on regardera ça, je dirais tout cela, sous l'angle du jugement moral quand même, des fautes, et spirituel pour le péché, et du jugement par rapport à cela dans une optique de miséricorde, bien sûr. Alors, quelques mots sur la relation avec l'accompagnateur. Donc, dans les deux cas, ce que je pourrais dire, c'est que l'accompagnateur est un petit peu comme Jean-Baptiste qui prépare la pâte humaine pour accueillir la grâce. Alors, bon, un thérapeute n'est pas forcément chrétien, mais s'il fait bien son travail, il dégage la personne, je dirais, il dégage le libre arbitre de la personne qui pourra choisir. Et ça, c'est très important. Voilà, donc il y a une alliance thérapeutique dans le cadre, je dirais, avec un thérapeute, qui suppose la confiance et un cadre précis, on l'a vu au-dessus. Voilà, c'est donc en principe, c'est une compétence laïque, même si le thérapeute est croyant, c'est une compétence qui a été acquise lors d'une formation universitaire longue et qui s'appuie sur des champs théoriques connus et utilise des outils validés. Par contre, dans l'accompagnement spirituel, la relation est basée sur la confiance et la compassion. L'accompagnateur est un peu comme un guide sur le chemin de la vie antérieure, comme l'archange Raphaël accompagnait Tobie dans son voyage. Donc l'accompagnateur agit d'une certaine manière au nom du Christ, il a une position de savoir sur la vie intérieure et sur le sens spirituel des épreuves. Et puis sa compétence est surtout celle d'avoir cheminé longuement avec le Christ et d'avoir une expérience de contact intime avec lui. Alors bon, évidemment, il y a une éthique dans les deux cas. Alors, il y a un devoir de respect fondamental de la personne et de non-intervention dans un domaine autre que celui de la dimension psychique pour le thérapeute. Et sur le plan spirituel, l'accompagnateur doit être au service de la croissance spirituelle de la personne et rester dans son domaine de compétences et éviter de faire de la psychologie à bas coût. Voilà. Pour vraiment savoir si on peut s'engager véritablement soit dans un travail psychologique, il faut consentir au travail psychique et à la recherche de vérité sur soi, accueillir sa réalité d'aujourd'hui et vouloir s'en sortir, avoir vraiment un désir de se comprendre et de tout ça en vue de sortir de la difficulté. Et puis, sur le plan spirituel, il faut avoir une certaine humilité devant sa situation. Et puis, coupler l'accompagnement avec une prière personnelle. On évalue le changement dans les deux cas, soit à une plus grande souplesse de fonctionnement psychique sur le plan thérapeutique, soit à la transformation de la vie de la personne qui pose davantage d'actes de charité, de foi et d'espérance. Alors, je vois que le temps a passé très vite. Alors, je vais peut-être résumer mon propos, en tout cas dire qu'il y a une articulation possible de ces deux accompagnements. Il y a des effets croisés positifs, il y a des intersections qui méritent qu'on soit vigilant sur les risques, et il y a des risques de dérive. Alors les effets croisés, je vais peut-être aller rapidement. Il y a des effets spirituels de la psychothérapie. Il y a la mise au jour d'illusions à son propre sujet, qui sont plus ou moins conscientes, qui sont donc rendues conscientes. Voilà, de l'ambivalence, de la fausse charité, de la toute-puissance, un sentiment de culpabilité envahissant, par exemple. Il y a un effet aussi, c'est sortir de la honte, c'est développer de l'amour de soi et la capacité de recevoir de l'autre, de pardonner. Il y a s'ouvrir à la parole et au désir. Il y a envisager un sens à son existence et sortir de l'errance existentielle. Voilà, c'est développer une confiance en soi et dans l'autre et dans la vie et un au-delà de la vie visible et un jour peut-être à celui qui est la vie pour ceux qui ne sont pas croyants. Et les effets psychothérapeutiques de l'accompagnement spirituel, eh bien, ils peuvent être liés à la relation, c'est de se sentir soutenu, écouté, regardé avec bienveillance, se tourner vers un avenir ouvert, développer la capacité de s'écouter soi-même, mieux se connaître, une capacité à prendre de la distance, à se réconcilier, à s'affirmer aussi, et à reconnaître la nécessité d'une psychothérapie, le cas échéant. Et puis, c'est lié aussi, ça peut être aussi lié, les effets psychothérapeutiques de l'accompagnement spirituel peuvent être liés à l'approfondissement, de la relation à Dieu, notamment se savoir aimer inconditionnellement, se savoir désirer de toute éternité, donc du coup avoir moins peur de recevoir, de donner, d'échanger, avoir moins d'angoisse d'abandon, moins d'attente affective, sortir d'une certaine ambivalence amour-haine, et puis avoir moins peur d'aimer, hein, parce qu'on sait que c'est l'amour qui triomphe, et qu'avec Dieu on est toujours gagnant, voilà. Puis peut-être aussi avoir moins la peur d'échouer. Alors il y a des intersections qui sont à regarder, qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas forcément toujours à recommander. Alors les intersections, c'est les formules 2 en 1. Alors j'aborde la question des sessions psychospirituelles, qui proposent l'intégration de la dimension psychologique dans la vie spirituelle avec conjointement le traitement psychologique et psychoaffectif par l'investigation du passé de la personne. Alors le risque est de simplifier abusivement et de ne pas traiter correctement l'aspect psychologique du parcours d'une personne, parce que ça nécessite vraiment une compétence, hein. Alors, ces deux domaines ne sont pas sur le même plan, on l'a vu. Donc il est vraiment très important de faire très attention, parce que prendre en charge une personne qui présente des troubles psychiques à coup de prières ou d'investigations transgénérationnelles et d'intercession, ça peut être dangereux si on ne l'oriente pas vers un lieu de soins professionnels en parallèle, hein. Le critère de discernement de ce type d'approche, c'est que est-ce que les personnes qui disent en avoir tiré profit ont grandi humainement et spirituellement et en Église ? Voilà, ça c'est vraiment un critère. Alors, une autre formule 2 en 1, c'est peut-être le choix d'un psy chrétien. Alors là, nous sommes concernés à AP21, et alors pourquoi pas ? Mais le critère chrétien n'est pas la garantie de l'adéquation de la compétence du thérapeute avec la difficulté de la personne. Donc il faut d'abord regarder si ce psy a la spécialité que vous recherchez, par exemple des TCC, de vérifier aussi si sa manière de travailler vous convient. Voilà. En revanche, si vous souhaitez pouvoir parler de votre vie sans crainte d'être soupçonné sur votre pratique religieuse ou que le psy induise des options contraires à votre conscience, choisissez donc alors un psy chrétien. Il faut savoir d'ailleurs qu'un psy a le devoir de respecter la foi et les croyances de ses patients, n'importe quel psy hein, d'ailleurs, et de les examiner essentiellement sous l'angle de leur sens psychologique. Si le travail est fait correctement, vous vivrez peut-être un temps de purification de votre vie de foi, car vous pouvez prendre conscience que la manière dont vous la vivez est tournée parfois plus vers vous que vers le Seigneur. Voilà, donc ça peut être un temps peut-être de purification de votre foi, de passer par un psy. Bon. Alors, est-ce que les démarches psychothérapeutiques et la foi, c'est compatible? Il y a beaucoup de questions qui ont été posées et qui ont pu tourner autour de ça. Donc, la recherche du bien-être psychologique n'est pas une doctrine de salut dispensant de se réconcilier avec Dieu. Mais on pourrait se demander aussi si la quête du bien-être psychologique est compatible avec une démarche de foi. Alors moi je dis oui, elle est compatible, parce que la parole de Dieu renvoie à l'amour de soi et non à la négation de soi, ou pire, à la haine de soi. Hein. Tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc aimer Dieu et son prochain suppose que l'on s'aime et que l'on prenne soin de soi. Donc il y a 3 amours indissociables selon le Christ. On ne peut aimer Dieu sans aimer le prochain. On ne peut aimer son prochain sans s'aimer soi-même, et on ne peut s'aimer soi-même sans aimer Dieu et se laisser aimer par lui. Voilà. Et deuxième chose, elle est compatible aussi parce que la santé psychologique aussi souligne combien nous sommes faits pour et par la relation. Toute notre psyché se développe dans les liens. Winnicott, un célèbre psychanalyste anglais du XXe siècle, disait qu'un enfant n'existe pas sans sa mère. Hein. Les bébés abandonnés à qui on ne parle pas meurent. Donc sans lien, pas de vie et pas d'amour. Alors, vite fait, les écueils dans l'articulation de ces démarches, il y a 2 types de dérives possibles dans cette articulation. Il y a le clivage, on isole les 2 approches, on refuse toute articulation, chacune nie l'existence et la valeur de l'autre et s'impose comme celle qui peut tout expliquer. Donc voilà, par exemple, dans l'accompagnement spirituel autosuffisant, il y a tout un effacement de ce qui fait notre humanité, corps, psychisme, histoire, etc. L'être humain est réduit à son intelligence et à sa volonté et à sa relation à Dieu. Donc là, ça peut mener à la négation de des besoins légitimes humains. Alors, je vais plus vite parce que je vois que le temps tourne. Alors, à l'opposé, il y a la fusion. On fusionne les approches, on ramène tout au même niveau. Et l'accompagnement spirituel vise des objectifs thérapeutiques. Et la thérapie vise des visées spirituelles. La démarche spirituelle entraîne la guérison ou le développement spirituel fait de la thérapie. Voilà, on est vraiment dans l'amalgame du soin psychologique et du soin spirituel. Et donc là, on est dans la confusion complète. Donc fusion, confusion, tribulation, voilà. Alors au final, on ne fait rien de bien. On se trompe sur les deux registres. Il n'y a ni accompagnement spirituel valable, ni thérapie psychologique, parce que les deux nécessitent des compétences approfondies et non de l'amateurisme. Voilà. Dans les deux cas, on est dans une approche sectaire qui dénie la complexité des situations et la prise en compte nécessaire de plusieurs points de vue et de plusieurs interlocuteurs pour appréhender la complexité du réel. Chaque approche se considère comme autosuffisante, soit dans le déni de l'autre, soit dans le phagocytage de l'autre. Donc il n'y a plus d'espace ni pour la pensée de la différence et de l'altérité. On est dans la coupure et la confusion des liens et on prépare leur disparition. Bon, voilà. Donc, bon, alors la solution est dans le dialogue, évidemment, de ces deux approches. L'accompagnement spirituel peut ouvrir le chemin vers une psychothérapie s'il y a un problème psychologique. À l'inverse, la psychothérapie peut ouvrir sur l'accompagnement spirituel, par exemple quand il y a une nécessité de délivrance ou d'exorcisme, ou pour bénéficier de l'intercession de la communauté, le sacrement des malades, la prière d'intercession, la demande de pardon dans le sacrement de réconciliation. Donc enfin voilà, donc il y a des dialogues possibles et l'un peut renvoyer à l'autre. Donc en conclusion, l'accompagnement spirituel et la thérapie ont des visées différentes, mais peuvent s'articuler sous réserve de ne pas les confondre ni de les opposer radicalement. Alors, quel mode d'emploi pour un usage à bon escient ? L'accompagnateur spirituel vise une plus grande, l'accompagnement spirituel vise une plus grande union à Dieu. Si on cherche à vivre en alliance avec Dieu, à discerner son appel sur soi dans un chemin quotidien ou un carrefour de notre vie, c'est la formule à retenir. Si l'on rencontre des difficultés à se comprendre, à entrer en relation avec les autres, que des symptômes envahissent le quotidien, alors pas d'hésitation, il faut consulter un psy. Tout chemin peut être emprunté par l'Esprit Saint. Une thérapie peut être un itinéraire vers la sainteté, comme un accompagnement spirituel peut emmener dans des impasses psychologiques. Donc il faut partir de soi, de ses besoins, de ses désirs profonds pour en juger. Dans la foi comme dans la psychologie, les formules magiques ne fonctionnent pas, et l'une comme l'autre ne peut faire l'économie de l'engagement de la personne. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très belle fête de la nativité.
Oui, bonjour Florence. Voilà, je vous appelle parce que voilà, moi j'ai un souci familial, c'est-à-dire que j'ai trois enfants malades psychologiquement. Oui. J'en ai un qui est autiste, un qui est à l'hôpital parce qu'il a son épouse, ça va pas non plus, et l'autre voilà, il est bipolaire aussi. Je voulais savoir si c'est aussi familial, des fois ça peut découler de la famille, c'est-à-dire c'est pas une libération comme vous dites à faire quelque part.
Ah, alors, oui, alors je pense que là vraiment, il y a peut-être une fragilité neurologique, peut-être dans la famille, hein, pour avoir peut-être une fragilité comme ça qui se traduit par des troubles autistiques pour un de vos enfants. La bipolarité, on sait bien que ça n'est pas, l'origine n'est pas l'environnement familial, mais il y a une fragilité psychique, ma foi, qui est liée à peut-être à la constitution nerveuse. Qui, mais là vraiment, il faut. Vous pouvez de toute façon demander la prière de la communauté pour pouvoir passer cette épreuve de la maladie. Mais je crois qu'il faut surtout pas penser que il y a par derrière voilà des questions de possession ou le démon qui ou alors des liens toxiques. C'est vraiment une réflexion. Enfin, il faut vraiment ne pas vous dire ça et vous dire que c'est vraiment plutôt lié à une fragilité dans votre famille, peut-être, effectivement.
Je pense, parce que c'est pas possible, quoi. Je veux dire que ça fait beaucoup, quoi. Et puis bon, même les autres enfants, bon, même qu'ils sont pas malades, c'est-à-dire qu'ils sont pas soignés, mais on sent que c'est fragile aussi, quoi. Donc, j'ai 6 enfants, vous voyez, donc, on peut dire 3 à peu près équilibré, puis voilà, 3 qui vont pas trop, quoi.
Oui, oui, mais c'est une épreuve pour vous, hein, très forte.
Oui, c'est ça.
Oui,
donc. C'est dur de tenir, bon, heureusement, moi je prie beaucoup, hein. Bon, maintenant, c'est vrai que j'ai d'autres soucis par rapport à autre chose, mais disons que c'est vrai que c'est mon plus grand souci, c'est mes enfants, quoi.
Oui, mais je comprends.
De les voir comme ça, c'est dur.
Oui, je comprends. Voilà, et vous avez surtout, vous, besoin d'aide et besoin de soutien de la communauté, enfin de la communauté paroissiale où vous êtes, et d'être soutenu, vous aussi. Mais alors, vraiment, en tout cas, moi, je vous encourage à ne pas penser qu'il y a la culpabilité des parents dans l'éducation de vos enfants. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'évidemment, ça...
Moi, j'ai essayé de les éduquer dans le bon sens, c'est-à-dire là, pour la foi, tout ça. Alors, on me dit que je suis... Bon, il y en a un, oui, il est parti aussi dans un délire mystique. Mais disons que moi, j'ai la foi, je ne pense pas avoir un délire mystique. Hein, ça. Hein, j'écoute Radio Maria, je vais à la messe le dimanche. Je veux dire, pour moi, c'est normal, naturel d'aimer Dieu, voilà.
Oui, oui, tout à fait. En tout cas, je dirais, ce qu'il y a à faire, c'est vraiment de soigner vos enfants. Enfin, là, j'imagine que vous êtes en lien avec les médecins, avec les psychiatres.
Exactement, oui, voilà. Oui,
oui. Et vous vous sentez soutenu.
C'est pas facile, parce que même les médecins, vous voyez, s'ils ne sont pas chrétiens, c'est pas facile non plus. Voilà.
Oui, je comprends, je comprends.
C'est pour ça que je voulais avoir, pour ça que je téléphonais aussi, pour avoir des coordonnées de médecins chrétiens, voilà. C'est-à-dire que, comme voilà, j'ai trouvé ça formidable ce matin en écoutant la radio, j'ai dit tiens, une psychanalyste chrétienne, voilà. Ça, c'est rare, voilà.
Oui. Voilà. Bon, merci Thérèse. Merci.
Donc, voilà.
Oui. Merci Thérèse, et puis je vous souhaite bon courage.
Merci.
Voilà.
Merci de votre éclairage. Voilà, sur la chose.
Avec plaisir.
Voilà.
Au revoir, Thérèse.
Au revoir, bonne journée.
Merci.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, j'aurais voulu... Je suis madame psychologue à la retraite, et il se fait que à la fin de ma carrière professionnelle, j'ai fait une session Agapé.
Oui.
Donc, vous voyez ce que c'est, hein. Donc, c'est au fond utiliser les ressources de la parole de Dieu... pour guérir des troubles du passé, des souffrances du passé. Et je pense qu'il y a eu une évolution qui s'est faite, mais je ne suis pas très au courant. Je voudrais savoir ce que sont devenues ces sessions agapées. Et j'aurais voulu poser une deuxième question, c'est que, étant isolé dans la montagne, j'ai développé un site pour apporter une aide de psychologie via Internet, soit par Messenger, soit par Skype. Et bon, et c'est une possibilité pour les gens qui sont isolés ou qui hésitent à aller rencontrer un psychologue en face à face. Voilà, je vous remercie pour votre réponse.
Eh bien voilà, ben merci Serge. Alors, bon, la première question, que sont devenues les sessions Agapé? Alors, les sessions Agapé ont été fondées en 2001 par Bernard Dubois et elles se sont développées. Il y a eu un certain nombre de soucis et tout a été en fait remanié en 2015. Par Monseigneur Luc Crépy, et qui a nommé le père Xavier Pollard pour entreprendre une restructuration des sessions. Donc en fait, maintenant, les propositions d'Agapé sont avant tout d'ordre spirituel. Dans les sessions, quand les personnes portent des souffrances lourdes, elles sont invitées à entreprendre un travail proprement psychothérapeutique. Donc en fait, il y a eu un remaniement. En tout cas, ce qui est posé, ça n'est plus le psycho-spirituel, mais ce sont des sessions, spirituelles, présentées comme spirituelles, avec bien sûr tout un contenu et des propositions d'accompagnement, je suppose, je ne les connais pas, hein, mais bon, d'accompagnement et de prière. Mais effectivement, quand on identifie qu'une personne a des difficultés importantes, on l'encourage à accéder aux soins, hein, aux soins qui lui conviennent. Voilà, en tout cas, l'Église a voulu garder l'intuition initiale qui était bonne, qui était de permettre aux personnes de vouloir vivre quelque chose d'intégré et de ne pas avoir le spirituel d'un côté et puis leur vie humaine et psychologique de l'autre. Donc ça, il y a quelque chose de bon là-dedans. Et puis sur le deuxième point que vous évoquez, vous avez donc créé un site pour aider, pour proposer une aide psychologique par Internet. Je trouve ça très bien. Je pense que c'est une très bonne initiative. Après, j'imagine que vous fonctionnez un peu comme dans un blog et vous donnez des conseils aux personnes qui se posent des questions.
Alors Serge a été coupé, donc on ne pourra pas avoir la réponse à vos questions. Mais voilà, on arrive au terme de l'émission, alors peut-être qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs pour conclure ?
Eh bien écoutez, moi je les encourage si certains veulent engager soit une thérapie, un accompagnement spirituel, eh bien de regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent travailler, est-ce que c'est la relation à Dieu, est-ce que c'est leur relation à eux-mêmes et aux autres. Et donc, je dirais, en tout cas, moi, je les encourage à s'engager dans un travail de ce type-là, parce que on apprend toujours beaucoup. Et puis, que ce soit un accompagnement psychologique, ça donnera peut-être des lumières spirituelles, ça permettra peut-être d'approfondir sa relation à Dieu. Et inversement, le choix est fait d'approfondir la relation à Dieu, il y aura forcément un impact psychologique positif. Voilà. Et donc, je les encourage vivement pour telle ou telle formule, selon leur désir.
Eh bien, un grand, grand merci pour tout ce que vous venez de nous enseigner. Eh bien, et bonne continuation pour le reste. Hein, que le Seigneur vous bénisse et bénisse tout ce que vous faites de façon à faire beaucoup de bien à tous ces gens qui vont venir vous visiter.
Merci beaucoup, Sandrine. Merci aussi à toute l'équipe de Radio Maria.
Merci beaucoup en union de prière.
Entendu.
Au revoir.
Au revoir.